Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Charline, ça va?
Ah ben voilà, c'est exactement ce que je cherchais. Celui de Ségolène Vincent, Maritima, ça se passe à Marseille.
Marseille? Mais j'aime trop. Marseille, franchement, c'est mythique. La région PACA, mythique de pointe en pointe.
Ouais, attends, parce qu'avec Maritima, on est loin des clichés habituels sur Marseille, tu vois.
Marseille, la Canebière, le vélodrome, les calames.
Bien sûr, Jean-Claude Godehaing.
Sauf que là, on est plutôt vers Fosse-sur-Mer, là, dans la vase, au milieu d'un paysage industriel toxique.
Eh ben, Jean-Claude Godehaing, c'est bien ce que je dis.
Ça va être guinguette, méchante émission. Oh, on va pouvoir faire un sujet sur le mariage de Manon et Julien.
Hein, qui ça?
Oh, frère!
Non, mais attends, c'est moi qu'elle appelle frère, je
crois. Le mariage de Manon et avec Julien! Avec Jules, Chiqui Chiquita, qui aime bien sur la cérémonie!
Ouais, écoute, Juliette, on comprend rien à ce que tu dis. Guillaume, il y a quoi dans la gourde de Juliette ce matin?
Bon, Juliette, qu'est-ce qu'on avait dit sur le chardonnay le matin, là?
Mais quoi? Oh, ça va, je suis à la pointe de l'actu, les Marseillais, con! La télé-réalité qui marche le mieux en France!
Mais la télé-réalité, c'est pas de l'actu, mais c'est même pas de la réalité, c'est de la merde!
Bah oui, il y a des sujets plus importants, Juliette, je sais pas, l'écologie, il y a du plastique plein la mer.
Mais il y en a dans les Marseillais! Dans les seins des filles.
Non, mais t'es au courant qu'il y a 1 million d'espèces menacées dans le monde?
Oh là là, mais je suis hyper inquiète pour les Marseillais, ils font partie de la biodiversité.
Oh, ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont disparaître.
Oh, t'es fada!
Bonjour la France Inter, vous écoutez la Start-up émission, où aujourd'hui nous tenons à rappeler que la blague n'est pas tête de liste de l'actualité. Parce que ça existe déjà, ça s'appelle une Nathalie Loiseau. Et voici les 3 informations candidates au débat. Le procès des patrons de France Télécom est en cours depuis lundi. Il est emblématique de la violence du management qui peut régner en entreprise. 7 anciens dirigeants sont appelés à la barre.
Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel.
Il y a 6 mois, des immeubles insalubres s'effondraient dans le centre-ville de Marseille. 8 morts. On était en droit d'espérer que les survivants délogés seraient relogés avec décence. Ce n'est pas exactement le cas. Si on avait assisté à la réunion de chantier, peut-être on aurait pu s'en douter.
Regardez ça, c'est une ruine! Il y a le téléphone?
Ni téléphone, ni eau, ni gaz, ni électricité. Il n'y a rien alors.
Un requin bleu est allé se perdre dans le port de l'Estac à Marseille il y a 2 semaines. C'est une espèce commune en Méditerranée. Ce qui est beaucoup moins commun, c'est de le retrouver dans le port. Donc dans la ville, quoi.
À qui Rodriguez téléphonait-il lorsque le requin est entré dans la cabine?
Elle est l'amie des animaux et de la littérature, Juliette Arnaud.
Alors Juliette Arnaud, certes, mais surtout une équipe de rêve en l'honneur de notre invité et de son roman Maritima. D'abord, tel le requin grand blanc en Méditerranée, on dit qu'on l'a vu, mais peut-être c'est une légende urbaine. Et puis un jour, voilà, il est là, et c'est aujourd'hui, c'est Thomas Bidguin.
Eh oui, certains disent qu'il aime vivre, et aujourd'hui il va vous parler de... aujourd'hui il va vous parler des fictions, de l'abri des fictions.
Très bien. Merci. Ensuite, ensuite nous aurons le piranha de par Jupiter. Quand tu le vois, tu te dis oh qu'il est mimi ce petit joli là. Et 10 secondes plus tard, t'es amputé d'un mollet et ta dignité. Guillaume Meurice.
Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler des élections européennes. Je suis allé voir des militants du Rassemblement National.
Ce qui est fondamental, c'est de lutter contre la.
Allez, je vous ai laissé un petit suspense. Les Arabes, l'islam, allez, je vous le laisse.
Enfin, un beau spécimen de Saint-Pierre, poisson doré, poisson noble, par excellence, mais également appelé poule de mer. Bref, d'un extrême à l'autre, Clara Dupont-Mono.
Oui, bonsoir. Certains ont dit qu'elle savait aimer. Nous allons parler du livre de notre invité.
Et oui, car voici celle qui va faire souffler la brise dans l'open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Ségolène Vincent. Bonjour.
France Inter, Charline Vaninateur, Alex Vizorek,
par Jupiter.
Bienvenue Ségolène Vincent.
Merci.
Vous avez fait bon voyage, vous êtes partie de Marseille ce matin.
D'Aix-en-Provence.
Côté, D'Aix-en-Provence, voilà. Vous êtes romancière Ségolène Vincent, c'est la raison de votre présence aujourd'hui. Vous publiez Maritima aux éditions de l'Observatoire. Je rappelle que vous êtes aussi chroniqueuse judiciaire à Charlie Hebdo, rescapée de l'attentat aussi. Et donc voici Maritima, le titre sans les embruns, la couverture joyeuse avec un jeune homme en short de bain qui joue au bord de l'eau. Jeune homme, c'est un roman. Et là, vous nous cueillez parce que vous nous emmenez au bord de
l'étang de Berre.
Donc, dans le quotidien de Jessica, Antoine, Joseph, Émile, Ahmed, vous voulez bien nous raconter ce qui lie ces personnages autour de l'étang de Berre qui, pour nous, évoque plutôt les usines...
La pétrochimie.
La pétrochimie, exactement.
En ce moment, on en entend parler à cause de la bioraffinerie totale de la Med. Mmh. Donc, c'est un territoire qui est très complexe, contradictoire, parce que on ne s'y attend pas, mais il y a une vraie nature, des côtes sauvages, et nous avons toute cette industrie, parce qu'il n'y a pas que celle autour des Tentebert, il y a celle qui se trouve sur la côte, sur la mer, à Fos-sur-Mer également. Et donc, j'ai imaginé des personnages tenus à ce territoire par des générations nées avant eux.
Oui, c'est trois générations de personnages.
Hein. Voilà, de pêcheurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Martigues, où se déroule l'intrigue, est une ville très très mignonne. On l'appelle la Venise au Provençal. Il y a des petits canaux. Et effectivement, ça peut ressembler à Venise. Et en fait, vous passez le viaduc et vous êtes en pleine zone Céveso. La ville est en zone Céveso. Et je me suis interrogée sur ces personnages qui vivent presque dans des traditions ancestrales et en même temps rattachés à ces usines qui ont apporté le travail à leur père et grand-père, et grand-mère également, et mère.
Et alors ce qui reste de la nature et qui est vraiment au centre de votre roman, c'est Émuge.
Les muges, oui.
Alors, en français, un mulet. C'est un poisson assez particulier, dont on dit, certains biologistes disent, on le découvre dans votre livre, que c'est le poisson le plus innocent de tous les poissons, puisque c'est...
Oui, c'est le Pacifique. Ouais.
Voilà, vous voulez bien nous expliquer ce que c'est.
Alors, le muge, il a un peu la lèvre inférieure tombante, un peu débile, quoi. Et il passe son hiver à racler les coques des bateaux, à bouffer la vase au fond de l'étang. Et donc, il est pacifique parce qu'il ne mange pas ses congénères. Et puis, il a tendance à caresser ses congénères du bout de sa bouche lipue. Et,
il est très mignon, ce mulet.
Mais il est très mignon. Ouais. Et les femelles grossissent d'avoir mangé, grossissent donc, portent des poches d'œufs. Et donc la pêche traditionnelle au câlin, le câlin est un filet qui traverse le chenal de Caronte. Et les muges qui ont grossi l'hiver dans les temps vont à l'été rejoindre la mer. Sauf que les hommes tendent le câlin, elles sont prises. Et là, on les débarrasse de leur poche d'œufs et on a fait de la poutargue. Vous connaissez la poutargue?
C'est une belle histoire au début, puis avant que les humains arrivent dans le jeu, qu'ils défoncent tout.
Poutargue, produit de luxe, ça coûte très très cher. Sauf que là, elles ont ingurgité un peu de pétrochimie quand même, mais produit de luxe.
Je sais pas, je les mange, moi.
Oui, vous les mangez.
C'est pas bien, Guillaume?
Je sais pas.
Bon, sauf que là, c'est fait de manière très artisanale, parce qu'en fait, votre personnage féminin principal, Jessica, sert de guetteuse, et ils en attrapent pas beaucoup. Enfin, là, on a le droit de
50 kilos à peu près de production par an.
Attention, moi je ne suis pas juge des affaires.
Non, puis si on dit que sur 50 kilos, il y a 50% de pétrochimie.
C'est ça. Il y a des métaux lourds. C'est un repas complet.
Voilà, c'est pas seulement du poisson.
Il faut dire que vous vivez là-bas, Ségolène Vincent.
Oui, je vis là-bas.
Donc ce que vous décrivez, parce que il y a quand on lit votre roman, c'est très bien décrit. On voit vraiment les images. On a un film qui défile devant les yeux.
On a même les odeurs.
Ah oui, on a les odeurs.
Parce que ça pue vraiment. Ouais. Sans rire, je vis là-bas, mais ça pue.
Mais c'est pas... Alors, quand on vous lit, oui, certes, ça sent fort, mais il y a vraiment plein de moments où on a envie de sentir aussi, même si ça sent fort. Il y a une chose assez sensuelle, enfin en tout cas charnelle, qui sourd comme ça.
Parce que curieusement, le benzène a une odeur très, très sucrée. Donc on pourrait même s'enivrer de ce sucre, mais en fait, non, vaut mieux pas, quoi.
Il faut dire aussi qu'il y a une intrigue, il se passe un drame entre tous ces personnages. Jessica est le personnage principal, on peut dire. C'est une jeune femme qui a un garçon de quoi, 5 ans,
ouais.
Au bord de l'étang de Berre. Jessica, vous aussi, vous habitez près de l'étang de Berre, et pourtant, elle paraît tellement loin de vous. Est-ce que pour construire ce personnage, il y a quand même 2-3 petites choses de vous pour le construire, elle qui a l'air tellement à diamétralement opposé à son auteur?
Alors, il y a peut-être 2 mois dans le fait que moi, je ne suis pas maman, et qu'elle ne désirait visiblement pas l'être.
Ouais.
Donc, à partir du moment où son enfant devient absent, elle me ressemble peut-être, et qu'elle s'imagine qu'il n'a jamais existé. Sinon, il y a rien de moi dans ce
comment
personnage.
Est-ce qu'on le construit alors? Ou est-ce que...
Alors là, on le construit en...
Comment vous le nourrissez?
Comment je le nourris? Je patiente dans la salle d'attente d'un médecin, où je vois des mamans avec leurs enfants. Je vois après un médecin qui m'explique que les enfants se font entre 20 et 25 ans. Et donc voilà, je nourris ce personnage de ça, de ce que j'entends dans la ville.
Et le point de vue est aussi du côté des enfants, du côté des très vieux monsieur. Là aussi, vous les nourrissez comment? Vous n'êtes pas un enfant, vous n'êtes pas un vieux monsieur.
Un peu.
Je suis comme un enfant atteint de progéria en fait. Non, c'est-à-dire que j'ai la tête d'un enfant, mais je parais enfin vieille quand même quoi.
Non,
ayant mon âge. Non, je l'ai nourri de l'enfant que j'ai pu être ou des enfants que je côtoie et du vieillard que j'espère devenir un jour.
Sigolène Vincent est avec nous. Elle publie donc Maritima aux éditions de l'Observatoire. Clara Dupont-Moneau y reviendra tout à l'heure, bien sûr. Nous aussi, on a choisi de revenir à Marseille tout à l'heure avec des immeubles qui s'écroulent, mais aussi avec des requins. Vous écoutez France Inter et Donovan Sunshine Superman. Sunshine came softly through my window today. Could have tripped out DC, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while, you're gonna be mine, I know it. We'll do it in style, 'cause I'm Jupiter, vous écoutez France Inter, c'est Sigolène Vincent qui nous accompagne pour son roman Maritima. Et pour l'entourer, Juliette ?
Pour l'entourer, il y aura Thomas Bideguin, suivi de très près par Guillaume Meurice. Oui, et encore plus près Clara Dupont-Moneau. Trop près Clara, trop près.
Et avec Guillaume, on piste l'info.
À quelle heure s'en va le train ?
Le journal de presque 17h17.
Ah, 17h17. Un moment de 5h15.
Et on commence avec les titres.
On parlera du fils de Carla Bruni et de Raphaël Antoven qui a rejoint l'UPR.
Oui, l'occasion de rappeler aux jeunes que la drogue, c'est mal.
On parlera aussi des boulettes dans la campagne de La République En Marche.
Oui, l'occasion de rappeler à Nathalie Loiseau que la drogue, c'est mal.
Et il n'y aura pas de brèves, car les brèves, c'est mal.
Ah non, non, les brèves, hein, c'est bien. C'est bien, les brèves. Bah oui, c'est modération.
Ah,
mais c'est bien.
Ah oui. On commence donc avec la campagne de La République En Marche qui ne décolle pas. Alors, comme ils veulent une campagne moderne, ils ont appelé à la rescousse Jean-Pierre Raffarin.
La bonne idée, Raffarin à la rescousse de Nathalie Loiseau. Le producteur d'Avengers a déclaré « Je suis jaloux ».
Jean-Pierre, un des pères fondateurs du rapprochement entre les peuples, on se souvient.
« Win the yes needs a no to win, then the no ».
Voilà, qui devrait accélérer le Brexit.
République En Marche toujours, on a appris que le numéro 2 sur la liste, Pascal Canfin, venait de se prendre une semaine de vacances, comme ça peinard.
Oui, mais parce qu'il a mal compris. Quand il a entendu campagne, il a compris maison de campagne.
Eh oui, voilà. Politique toujours. Ce matin, Gérard Collomb était sur Europe 1 et il a déclaré, je cite, « Aujourd'hui, Emmanuel Macron est en difficulté ».
Ah, la vista de Gégé. Il est enchaîné sur la neige, c'est froid. Et mince, je me suis encore pissé dessus.
Toujours à propos d'Emmanuel Macron, Christophe Castaner a été recadré par le président. Il lui a demandé d'éviter les micros tendus et de tweeter un petit peu moins et puis d'éviter les virées nocturnes.
Christophe Castaner aurait répondu, « Ouais, mais là, c'est bon, c'est relou, ça va, t'es pas mon père, j'en ai marre, je vais fuguer !»
Politique encore. Le fils de Carla Bruni et Raphaël Antoven rejoint donc l'UPR.
Camoulox,
bien joué, vous gagnez un pins parlant Bernard Guetta.
Waouh, la chance internationale à présent. À qui acquitté en octobre dernier de sa condamnation à mort pour blasphème, Asia Bibi a quitté le Pakistan pour le Canada.
Et donc, c'est qui est sauvé?
C'est Bibi.
C'est brillant.
C'est brillant.
Nouvelle fusillade aux États-Unis dans une école du Colorado, un mort et plusieurs blessés.
Oui, dans les écoles américaines, on met du plomb dans la cervelle des mômes, mais on ne comprend pas le sens figuré, toujours, de la phrase.
Vocabulaire, à présent, le dictionnaire Larousse a dévoilé les nouveaux mots.
Oui, alors, il y a divulgâcher, par exemple, fachosphère, et il y a même le verbe zémouriser.
Zémouriser?
Zémouriser, c'est vomir ses névroses sur des pages blanches et appeler ça un livre historique.
Ah, ouais, bah oui, évidemment, ouais, c'est clair. Série à présent,
oui.
Car la productrice exécutive de Game of Thrones s'excuse après avoir oublié un gobelet Starbucks dans le dernier épisode diffusé dimanche.
Tandis qu'en France, les producteurs de Plus belle la vie s'excusent.
Ah, ils ont oublié un gobelet aussi?
Non, ils ont oublié le scénario. Ça fait une bonne dizaine d'années.
Ah, c'est ça, ouais. D'accord. People, à présent, car Lynn Papin, la compagne de Marc Lavoine, a déclaré ne pas voir leurs 33 ans d'écart.
Et voilà, une bonne astuce. Une bonne astuce pour Yann Moix, hein, ne sortir qu'avec des myopes.
Attends, ça, on voit pas. Voilà. Et on termine avec une brève.
Oui, pour éviter une fermeture de classe, une école primaire de l'Isère inscrit 15 moutons. Bien joué. C'est un bon mois en plus pour annoncer ça.
Bah, pourquoi?
Parce que c'est le mois de mai.
C'est brillant. Excellent. C'est extrêmement brillant.
Première radio de France. Ouais, n'oubliez jamais ça.
Ségolène, elle travaille à Charlie, je t'explique, elle a pris une leçon. Ouais, voilà, évidemment. Ségolène Vincent en notre compagnie. Et il est 17h24 à Martigues. Et on va aborder ce premier sujet avec vous qui a trait, une vie antérieure chez vous, on va dire. Suspense. Alors, en 2006, rappelez-vous, Internet commence à supplanter les lignes fixes. France Télécom n'a rien vu venir et plonge. L'entreprise publique change alors brusquement de méthode de management. Les syndicats dénoncent la brutalité des méthodes de la direction, manifestent après un premier suicide. Il y en aura 19 en tout entre 2007 et 2010. Alors, la justice doit déterminer, là en ce moment le procès s'est ouvert lundi, si les 7 prévenus, anciens dirigeants de France Télécom, ont mis en place un système de harcèlement moral qui a pu nuire à la santé et à la dignité des employés. Petit aperçu de ce que ça peut être la dignité dans les entreprises.
Vous avez surfusé les 35 heures, vous avez surfusé les augmentations de salaire, vous avez surfusé les tickets restaurants. Alors aujourd'hui, ne refusez pas le cadeau que l'entreprise vous fait. Eh oui, vous ne rêvez pas, ce sont bien des blouses neuves. Les chics sont ciblés à vous. Comme quoi, un grand groupe international, souvent trop décrié, peut aussi avoir de petites attentions. Alors mes amis, désormais, ne cédez plus au misérabilisme ambiant, battez-vous! Et pour finir, n'oubliez jamais que vos petits problèmes, vu de la lune, c'est peanuts!
Francis Kuntz dans Louise Michel, le film de Kerverne et Delépine, et c'est tellement vrai que chez Whirlpool à Amiens, quand ils ont viré les gens, ils leur ont offert un sèche-linge à chaque employé viré, et donc, c'est exactement ça. Alors ici, on parle de France Télécom, le procès s'est donc ouvert lundi, il va s'éterniser jusqu'en juillet. Les faits remontent à il y a longtemps déjà, c'est la lenteur de la justice fait que seulement aujourd'hui on juge France Télécom. Alors, vous, Ségolène Vincent, vous avez été avocate, si je m'abuse, en droit du travail.
C'est oui, exact. J'ai fait mes études, ouais. J'ai des diplômes en droit du travail et j'étais avocate en droit du travail de 2001 à 2008.
Ouais.
Et au départ, enfin, je défendais donc les salariés. La notion de harcèlement moral venait juste d'arriver et fallait aller au procès, enfin, au conseil du prud'homme avec de la littérature, c'est-à-dire des psychologues du travail, parce que c'était pas encore vraiment dans le code du travail. Mmh. Et fallait plaider là-dessus sur juste de la littérature et de la théorie. Et c'était très difficile. Et c'était jamais pour rechercher la responsabilité pénale de l'employeur, puisque c'était à cette époque toujours au civil, donc devant les prud'hommes. Mais c'était très difficile de rapporter la preuve de ce harcèlement et c'était généralement dans le cadre de procédures pour licenciement abusif, ouais, enfin, ouais. Qui était requalifié ensuite sans cause réelle et sérieuse. Et c'est vrai que moi j'ai eu des clients, beaucoup qui sont venus me voir pour harcèlement moral et il y a ceux avec lesquels je pensais qu'on pouvait aller au procès et se battre et d'autres que je ne voyais pas assez fort et à qui je conseillais même... De démissionner directement et de pas attendre d'être licencié, de subir du harcèlement. Mais j'ai vu beaucoup de gens placardisés.
Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, comme avocate, vous n'aviez pas tous les outils et toutes les armes pour pouvoir...
Les outils arrivaient seulement. Et donc à mon époque, il n'y avait pas eu des défaits aussi graves donc de suicide et il n'y avait pas de responsabilité pénale encore engagée.
Ouais. Est-ce que vous regardez donc cette affaire avec un œil plus expert que nous et peut-être pas moins épidermique néanmoins?
Épidermique, mais pas tellement d'un point de vue professionnel, mais
même si en tant que juriste, ça m'intéresse de savoir comment la responsabilité pénale de, des employeurs, des dirigeants sera retenue ou pas.
Mmh. Et si jamais elle est retenue, ça peut faire jurisprudence.
Ah oui, ça fera jurisprudence, oui,
automatiquement.
Et comme on pourra s'en servir, c'est une grosse boîte. Et puis après, s'il y a des cas similaires, on pourra aller en justice et au pénal dans ce cadre-là. Mmh. Mais sinon, il y a quand même beaucoup d'affaires qui vont au prud'homme, des cas de harcèlement moral.
Et dans les affaires que vous avez plaidées, est-ce que les patrons en question affichaient le même déni, absence de regret que les dirigeants de France Télécom actuellement, qui ont une réaction qui est absolument indigne, en disant que c'est pas eux, qu'ils servent de bouc émissaire, que alors qu'ils ont parlé de crash machine, c'était la fameuse...
Il y a 39
victimes, c'était la fameuse mode de suicide évoquée par le directeur de France Télécom. Enfin, est-ce que ça, pour vous, c'est assez inattendu, ou globalement, dans les affaires que vous avez traitées, les patrons affichent tous à peu près la même attitude?
Dans les affaires que j'ai traitées, moi, c'était rarement le patron ou le président de la boîte qui était généralement mis en cause. C'était la boîte en elle-même. Et ensuite, à l'intérieur de ces boîtes, c'était simplement, de temps en temps, un supérieur hiérarchique qui, parfois, agissait de son propre fait sans ordre de la direction. D'autres fois, effectivement, c'était dans le cas d'une direction qui voulait se débarrasser de salariés pour éviter un plan social et de mettre le reclassement, enfin tout ce qu'il y a à mettre en place pour un plan social, agissait de cette façon-là.
Vous voulez dire que c'est parfois le système et parfois c'est le fait d'une personne?
Parfois ça peut être le fait d'une personne, même d'un collègue qui n'est pas un supérieur hiérarchique, mais généralement c'est un supérieur hiérarchique direct. Et parfois, comme c'est le cas là, c'est dans le cadre d'un plan plus global, peut-être pour éviter toutes les procédures de plan de licenciement économique qui peuvent, une procédure qui peut être lourde.
Mais ça peut être une collègue chroniqueuse littéraire, par exemple, qui harcèle moralement.
Tout à fait.
C'est bon à savoir.
Et à l'époque, il y avait que le harcèlement sexuel qui était, on pouvait vraiment jouer sur le harcèlement sexuel au travail. Et c'est par le biais, moi, du harcèlement sexuel qu'on arrivait au harcèlement moral. C'est d'appliquer les mêmes choses au harcèlement moral.
Ségolène Vincent, avocate donc devenue romancière et chroniqueuse, toujours à Charlie Hebdo. Ségolène Vincent, à côté de vous, et pour nos auditeurs, il y a un événement. Thomas Bideguin.
C'est bon, un événement. Vous vous faites bien marrer. Ah, donc, c'est à moi. Et je reviens une fois de plus pour parler de storytelling. C'est ça que je fais ici, même si Vizorek n'est pas là aujourd'hui. Bon, mais je rappelle qu'il sera le 10 à Vélizy, le 11 à Châtellerault et le 18 à Saint-Lô. Je dis ça parce que si vous êtes détective et que vous écoutez l'émission dans 2 ans, c'est cet itinéraire-là qu'il faudra retracer. Voilà. Donc je reviens pour parler de storytelling. Je reviens pour vous parler de storytelling. Donc de tous ces petits récits climato-sceptiques qui font la pluie et le beau temps à force de bon sens idiot et d'idées générales et qui, mis bout à bout sous le regard bienveillant d'un CSA, prompt à confondre la liberté de parole avec cette passion qui semble animer nos contemporains pour la négation des évidences, forment la grande histoire des « je suis folle de rage ». Et moi aussi d'ailleurs. Le storytelling, quoi. Et justement, arrêtons-nous cette semaine un instant pour nous interroger sur cette passion actuelle pour le storytelling. Parce que c'est comme ça, même si on lit moins, on publie toujours autant de livres. Merci Ségolène. Céline disait, la littérature c'est comme l'arbalète et l'équitation. On n'est plus au 18e, mais il y aura toujours des fanatiques. Et puis... Et on produit toujours autant de films ou de jeux vidéo, et les séries sont maintenant devenues un phénomène de société. Le monde qui nous entoure, c'est comme ça, s'articule autour des fictions. Que ce soit pour nous vendre du déodorant, le nouveau plaisir de l'homme moderne, ou la répression des manifs du 1er mai, le nouveau plaisir de l'homme moderne, ou la dernière encyclique du pape, le nouveau plaisir de l'homme moderne, eh bien, c'est la même chose. Plus que jamais, on a besoin de nous raconter des histoires. Parce que nous vivons, et c'est ainsi, à l'abri des fictions, dans leurs territoires confortables et leurs enjeux symboliques. Peut-être parce que les vrais enjeux, ceux de la réalité, n'ont jamais été aussi implacables, globaux et terrifiants. Alors, le monde se réfugie derrière ce tube à produire de la fiction que sont les séries, ces personnages récurrents, ces situations qui se répètent et ces interminables saisons qu'on enquille la nuit comme de vagues souvenirs. Elles deviennent le ciment de nos couples, elles deviennent le ciment de nos sociétés. Se dire que « winter is coming », eh ben, dans une époque de réchauffement climatique, c'est plutôt rassurant. C'est comme ça. On ne vote plus, on reste chez soi à se demander qui va monter sur le trône de fer. Et c'est pour ça qu'on raconte des histoires aux enfants. pour chasser leur peur, pour chasser leur terreur nocturne, pour mettre un filtre entre eux et la réalité. Sinon, ils passeraient leur nuit, les pauvres petits, à penser qu'un jour, ils auront 18 ans et qu'il leur faudra choisir un candidat pour fédérer la gauche aux européennes. Eh ben, moi aussi, je préfère qu'on me raconte des histoires de grand-mères dévorées par les loups. Et oui, c'est comme ça. Les histoires, ça protège, ça soulage. Et Castaner l'a bien compris, qui, à peine sorti de son affaire de crousse et blessure, là, à la salle pétrière, profite du 8 mai pour rappeler que pendant la Seconde Guerre mondiale, je cite, « Partout en France, des policiers ont pris le maquis, ont guetté l'ennemi, combattu l'oppression. Partout en France, des policiers ont fait le choix de la résistance. » Eh ben, dans le 11e arrondissement, à Paris, c'est là où j'habite, il y a 1200 enfants qui ont été arrêtés pendant la guerre et ils seront certainement soulagés d'apprendre que ce sont de valeureux résistants qui sont venus les sortir de chez eux. Non, c'est vrai, c'est la classe. Et enfin, voilà, mais il fonctionne comme ça, Castaner, comme une machine à raconter des histoires. Sauf qu'apparemment, il y a un bug. Bon, et moi, je suis pas très technique, alors je me dis qu'on devrait peut-être juste le débrancher et le rebrancher. Juste pour essayer, pour voir s'il redémarre bien.
C'est une idée.
Bah ouais, enfin, c'est ce qui a motivé. Mais ce qui a motivé cette petite chronique un peu sombre sur la protection que nous offrent les fictions, c'est une campagne d'affichage pour le PMU, que vous avez peut-être vu, qui a recouvert les murs de Paris. Sur les images, on voyait les photos de différentes personnes qu'on nous présente un peu comme étant de conditions modestes. On voit ça à leurs habits, à leurs doigts épais, serrés sur un ticket de PMU, à leur visage implorant on ne sait quelle divinité de leur apporter même momentanément un peu de réconfort. Et sur ces images est inscrit le slogan « Que les meilleurs gagnent ». Vous n'avez pas vu ça?
Ah,
c'est sur les murs.
C'est dingue.
Alors on peut s'interroger sur l'utilité de tapisser les murs de nos villes d'une campagne aussi obscène. Peut-être parce que nos rues ne manquent pas de gens implorant le sort de leur apporter un peu de réconfort. Et parce qu'il n'est pas non plus besoin de nous rappeler que les meilleurs vont gagner et que ce sont toujours les mêmes et que les autres resteront là à mendier des revers de fortune au coin de nos rues. Et peut-être surtout parce que ces tickets de PMU froissés, ils sont la promesse éphémère que d'autres vies sont possibles. Et qu'à l'image de toutes ces histoires, de toutes ces fictions dont on nous gave, eh bien, ils nous protègent un très court instant de la réalité.
Thomas Bideguin. Merci Thomas.
Gauchiste.
Clara Luciani. Et nu sur France Inter. Mais, ça... mais sur toutes les radios aussi, c'est le même titre.
Mais oui. Ok, studio.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle, celle dont j'ai l'air? Souvent je change.
Clara Luciani, qui vient d'où donc ?
De Martigues.
Ségolène Vincent, évidemment. Elle nous emmène au bord de l'étang de Berre, Ségolène Vincent, dans Maritima, paru aux éditions de l'Observatoire. Clara Dupont-Monod va nous en parler tout à l'heure. On va reparler bien sûr de Marseille et on va parler aussi de requins et de surf. Ouais. Des passions de Ségolène Vincent qui est avec nous. Et puis... il y a Guillaume Meurice,
oui,
bien sûr.
En parlant
bien
de requins, en parlant de requins.
Piranha, on a dit un petit piranha mignon. Non, mais je vais vous parler des européennes aujourd'hui, parce que ça y est, la campagne est lancée.
Yes.
Ça y est, on y est là. Francis Lalanne est prêt pour la remontada. Benoît Hamon est... On a des nouvelles de Benoît Hamon. Ben, restez pas comme des glands, on l'a peut-être oublié sur une aire d'autoroute, putain. Allez, allez le chercher. En attendant, on a Nathalie Loiseau qui est en feu aussi. Elle a parlé de Blitzkrieg pour sa campagne. Bien joué, Nataloche. On attend avec impatience la sortie de son livre intitulé Les nazis, il y en a des biens. Et c'est sur la tolérance. C'est le Troisième Reich, préface de Kevin Mussolini. On l'attend, c'est le petit-fils de l'autre. Parce que je vous rappelle que la liste du parti de Marine Le Pen est menée par un type qui s'appelle Jordan, hein, quand même. On en est là aujourd'hui, Jordan Bardella. Donc le gars qui lutte contre la mondialisation, il a un prénom de Beverly Hills déjà. Hein, il a un nom transalpin et il a le swag de Pascal Praud. Voilà, on en est là, c'est comme ça. D'ailleurs, ce matin, je suis allé voir des militants du Rassemblement National parce qu'ils tractent pas mal en ce moment dans les rues. Et ce qui est bien avec eux, c'est le choix des sujets. Parce qu'ils peuvent parler de plein de trucs. Par exemple, l'immigration, les étrangers, et ça, ouais. Les gens qui viennent d'un autre pays. Il y a plein, c'est vaste, c'est hyper vaste. Et quand on leur en parle, ils sont toujours nuancés.
C'est un crime contre la France. C'est un moyen de détruire la civilisation française et européenne.
Vous pensez qu'accueillir des réfugiés, c'est un crime contre la France ?
Ah, tout à fait.
Voilà. Hein, puis moi, d'ailleurs, je connais personnellement Cédric Herrou. Je peux vous dire que le type est dangereux. Je l'ai vu avec un couteau une fois. Alors, il dit que c'est pour beurrer les sandwichs. Moi, si j'étais la France, je lui tournerais pas le dos. Alors, attention, au Rassemblement National, on est aussi capable d'apprécier des étrangers. Lesquels ?
Des Français, des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des Hongrois. Il faut un grand groupe nationaliste, des hommes comme Viktor Orban.
Ah bah oui, alors là ça fait plaisir, là on va être bien avec Viktor. Vous connaissez Viktor Orban ou pas?
Non.
Comment vous voyez Bruno Gollnisch? Eh ben à côté c'est un zadiste, voilà, je vous le dis. Viktor, ça serait l'oncle raciste au repas de réveillon de Bruno Gollnisch par exemple. Hein, donc pour un parti qui veut se donner une image plus lisse, c'est un peu compliqué. Parce que la stratégie des cadres du parti, c'est de faire oublier le père Le Pen, mais les militants sont un petit peu nostalgiques, notamment sur les petites sorties, sur les chambres à gaz.
Mais moi je l'ai pris plus comme une boutade qu'autre chose, quoi. Alors évidemment, vous les médias, vous vous empressez aussitôt de mettre l'accent dessus, mais c'est une boutade.
Est-ce que c'était une bonne boutade ?
Écoutez, on a entendu pire, hein, vous savez.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'ai lu le recueil d'histoires drôles d'Himmler. Bon, je dirais pas que c'est pire parce que dans le domaine artistique, c'est hyper subjectif. Mais il y a quelques trucs un peu limites. Ceci dit, Jean-Marie avait quand même un niveau pas dégueu. Et puis on a souvent utilisé ce qu'il a dit pour nuire.
Vous savez ce que quand même le français c'est assez subtil. Même la même phrase. D'après la manière dont vous la prononcez, ça veut pas dire la même chose.
Quand il dit les chambres à gaz, c'était un détail de l'histoire. Est-ce que c'était subtil?
Il faut dire toute la phrase qu'il a dit. Il a dit c'est un détail de l'histoire, mais au niveau de la Seconde Guerre mondiale.
Ah d'accord. Ah bah oui, bah, effectivement. Ah ben bah, ça change tout, parce que moi je croyais qu'il parlait de chambre à gaz pendant la guerre de 100 ans. Et je me disais putain le salaud. Ah bah là je m'excuse. Voilà, je m'excuse. Faut lui rendre justice. D'ailleurs, puisqu'on parle de justice, tiens, il en est question pas mal dans ce parti. Vous l'avez rappelé ce matin, pas mal de petites casserolettes. Hein, on n'est pas loin de la cuisine équipée là. Parlons par exemple des emplois fictifs.
Vous pouvez très bien travailler dans une société, et puis si vous voulez imiter le soir quand vous avez fini de travailler, dans un parti, quel qu'il soit, vous avez le droit.
Ah, mais là, ce qu'on leur reproche, c'est plutôt d'avoir pas du tout travaillé.
Mais il n'y a aucune preuve de ça.
Ouais, parce qu'il n'y a pas tellement de preuves qu'ils ont travaillé.
Il n'y a pas eu de procès.
Ah, alors attendez, parce que tout vient à point, à qui c'est attendre. Les juges ont repris d'ailleurs le slogan du Rassemblement National pour les Européennes. On arrive. Chacun son tour. Chez, hein, comme disent les jeunes qui ne savent pas faire l'accent arabe comme moi. Mais bon, parlons du fond. L'Europe, hein, parce qu'on est là pour l'Europe. Et au Rassemblement National, ils voulaient à un moment donné sortir de l'euro et de l'Europe. Mais alors là, plus rien à voir. Ils ont tous changé, rien à voir.
Ah non, c'est pas sortir d'Europe, c'est sortir de l'Union Européenne.
Oui, mais alors comment sortir de l'Union Européenne en restant quand même dans l'Europe ?
Mais comment ça ? On peut rester dans l'Europe, mais à ce moment-là, on retrouve notre souveraineté comme c'était à l'origine avec le marché commun.
Il n'y a plus de Parlement européen, là ?
Eh ben, il y a un Parlement européen qui fera les lois.
Ah, mais s'il y a un Parlement européen qui fait les lois, ça veut dire qu'on n'a plus tout à fait notre souveraineté.
Ah non, ça ne sera pas le Parlement européen qui fera des lois.
Ah bah c'est ce que vous venez de me dire l'inverse.
Non. Ah non, on s'est mal compris là.
Je crois qu'on pige pas bien. Hein, alors, c'est pas grave, on peut changer d'avis aussi. Ils ont changé d'avis, tout le monde peut changer d'avis. Juliette a arrêté de boire, par exemple, a changé d'avis. Bon, depuis 15h30, elle a changé d'avis. Elle peut rechanger d'avis, tout le monde a le droit. Le tout, c'est de l'assumer.
On a changé, on s'est adapté. Vous-même, dans votre vie sentimentale, vous avez une personne avec qui vous allez être. Et puis un jour, vous changez d'avis.
Eh ben, c'est comme ça. C'est comme ça. La politique, c'est comme l'amour. Hein, ça vous fait changer d'avis, ça vous emballe, ça vous dévore. Comme dirait Nathalie Loiseau et Jordan Bardella, ça fait fureur.
Guillaume Meurice, merci.
À votre service.
Guillaume. Vous écoutez Par Jupiter, c'est Ségolène Vinson, notre invitée. Clara Dupont-Mono va nous parler de Maritima, paru aux éditions de l'Observatoire. Avant cela, on vous propose le deuxième sujet du menu de cette émission, le plat principal, donc, proposé par Juliette Arnaud.
Comment peut-il y avoir encore 650 personnes logées à l'hôtel dans des conditions donc précaires à Marseille 6 mois après le drame? Parce que, par principe de précaution, d'autres bâtiments ont été vidés de leurs habitants et la situation n'est pas prête de s'améliorer. Il paraît qu'il n'y a pas une semaine sans de nouvelles situations d'urgence à régler. Et alors, comment leur expliquer aux gens à la rue que ce qui arrive à ce qui était avant leur maison, c'est ça.
Ah oui, mais qui pas que le problème des cabinets, c'est le tout qui est insalubre ici.
Qu'est-ce que c'est insalubre?
Insalubre, c'est démolir, raser, vous voyez, bulldozer, et puis après, reconstruire, moderne, propre, voilà.
Et nous, dormir moderne, propre, hein?
Oui, enfin vous ou d'autres, ça je sais pas, hein, c'est pas de mon ressort, c'est pas moi qui décide ça.
Jacques Villeray, je le dis parce que vous êtes en train de boire
non,
dans votre gourde.
Non, pas du tout. Je ne buvais pas. Et je buvais de l'eau. Si voilà. Je buvais, j'étais en train de boire de l'eau. C'était Jacques Villeray de Black Big Back.
Le film de Thomas Gilou.
Ségolène Vinson, nous avons choisi ce sujet pour vous parce que vous êtes une migrante. Ah, pardon.
Oui.
Vous êtes une nouvelle venue sur les terres sudistes. Et alors, on se disait que vous pourriez nous donner le vrai ressenti des gens du coin puisqu'on a la chance d'avoir une expat.
Ouais, alors je connais pas bien Marseille, parce que j'y vais pas souvent, parce que c'est pour moi la vraie grande ville, et je préfère rester dans ma petite ville à moi. Mais quand j'y vais, je suis toujours frappée par la façon dont est construite cette ville. C'est-à-dire qu'on a l'impression de l'agglomération de plusieurs anciens villages, et moi je suis toujours donc étonnée par ça. Et plus qu'à Paris, c'est-à-dire que il y a le quartier Noailles, la rue d'Aubagne, vers la gare Saint-Charles. Et ce qu'on ne voit généralement pas si on n'y va pas, c'est la Corniche, le Prado. Et en fait, Marseille n'est pas seulement cette ville avec des logements insalubres, mais il y a aussi beaucoup de richesses, des baraques incroyables sur au Casblanc ou sur le Prado, une flambée de l'immobilier sur la Corniche et sur des anciens petits quartiers populaires comme Malmousque, qui étaient des petits baraquements de pêcheurs, et là les prix flambent. Et à côté de ça, ces quartiers-là qui ont l'air complètement quartier Noailles coupés du reste de la ville. Et voilà.
Et ben, mais justement, en vous lisant, Marseille, ça a été longtemps et beaucoup Pagnol. Et puis le ton s'est durci avec Jean-Claude Izot. Et puis vous, maintenant, avec l'ambiance de la mer empoisonnée par des raffineries de pétrole. Et moi, il me semble qu'insidieusement, tranquillement, mais on y arrive. On arrive à Naples et on arrive à Gomorrah.
Ah,
Et on embrasse tous les Marseillais. Alors,
non, à Marseille, peut-être. C'est-à-dire qu'à Martigues, on a la chance d'être au sein d'une ville communiste, et qui est communiste depuis 1956 sans alternance. Donc il y a une politique forte. Donc à Martigues, vous trouverez peut-être quelques logements insalubres, mais quand même pas beaucoup dans l'ensemble.
Oui, mais Marseille.
Mais Marseille. Alors Marseille, donc nous avons Gaudin. Nous savons que cette ville est très endettée. Et la dernière trouvaille, il y a quelques années, c'est de faire une métropole, évidemment, pour que Marseille, qui est endettée, englobe en son sein des villes comme Aix, Salon de Provence et Martigues, qui, elles, sont riches. Et du coup, déséquilibre, Marseille va déséquilibrer tout un territoire et d'autres villes qui n'étaient pas déséquilibrées à l'époque. Bon, si ça déséquilibre Aix-en-Provence, c'est pas très grave, hein, sincèrement. Mais donc, effectivement, cette ville est très mal gérée. Et Gaudin, qui se plaint ou qui est triste qu'on le prenne pour un bouc émissaire, je pense qu'il il a toutes ses responsabilités. Et quand on voit qu'il y a des gamins de 6 ans à Marseille qui savent toujours pas nager parce que les piscines n'ont pas d'eau dans les quartiers. Donc il n'y a pas seulement les immeubles qui s'effondrent et des gens qui ne sont pas relogés. Il y a des gamins qui savent pas nager, il y a des piscines qui sont vides, des écoles insalubres. Et donc voilà.
Ségolène Vinson, restons donc dans les Bouches-du-Rhône et dans cette région, dans ce territoire, avec votre roman Maritima. Et Clara Dupont-Mono.
Oui, parce que vous êtes notre actualité aujourd'hui, Ségolène Vinson, vous et votre livre, donc Maritima. Alors, je ne sais pas si dans la vie vous aimez le rangement, Ségolène Vincent. Mais en général, on peut classer les gens en deux catégories. On peut s'amuser à ça, on peut voir le monde comme ça. Donc par exemple, d'un côté, il y a les gens pressés, il y a les gens lents. Il y a ceux qui écoutent par Jupiter et il y a les sourds. Enfin, par exemple, il y a ceux qui sont pas spécialement agressifs quand ils éprouvent du désir pour moi, et il y a Guillaume Meurice. Vous voyez, on peut classer les gens comme ça. Et il y a aussi les femmes qui veulent un enfant qui en ont un, et les femmes qui ne veulent pas d'enfants et qui en ont un aussi. Et c'est le cas de votre héroïne Jessica. Elle habite au 9e étage d'un immeuble rose qui est tout au bout des Bouches-du-Rhône, à Martigues, vous l'avez dit, face à la mer. Et la mer, bien sûr, ce n'est pas anodin pour un lieu, surtout pour une femme qui ne voulait pas justement être maman. Bon, Jessica, c'est son fiancé qu'elle aime, c'est pas son enfant. Son fiancé, prénommé Francky, qui était ouvrier dans ces usines de pétrochimie qui bordent toute cette zone côtière que vous décrivez, en gros de Marseille à Fos-sur-Mer. Mais le problème, c'est que Francky est mort de façon complètement absurde, une nuit, et qu'est-ce qu'il faisait la nuit sur la route de sa perte? Eh ben, il fuyait les pleurs de son nouveau-né qu'il a justement eu avec Jessica. Donc, évidemment, résultat, c'est que Jessica en veut un peu à son bébé. Une fois Francky enterré, une fois l'enfant grandi qui a 5 ans, qui s'appelle Sébastien, eh bien la rancœur de Jessica ne s'est pas éteinte. Je cite, Jessica le regarda comme s'il était un inconnu. Elle se demanda à quel moment elle s'était éloignée de lui. C'est un peu ça le tableau de Jessica, vous êtes d'accord? Oui. Alors il se trouve que dans la littérature, Jessica, elle a plein de copines. Elle a plein de filles comme elle qui ont eu un enfant alors qu'elle n'en voulait pas et qui, du coup, mettent une espèce de grand coup de boule à l'idéal « Bonne maman, c'est toi que j'aime tant ». Et parmi ces indignes, il y en a une que j'aime particulièrement, que vous connaissez peut-être et qui s'appelle, restez tous assis, la marquise d'Aiglemont. Ah. Où trouve-t-on une splendeur pareille? Eh bien, on la trouve chez Balzac, docteur en splendeur, dans son livre « La femme de 30 ans ». Parce que la marquise, elle a 26 ans, c'est en gros l'âge de votre Jessica, elle s'est mariée, elle a eu un enfant, et c'était pas du tout ce qu'elle voulait. Résultat, elle se retrouve coincée dans un tout petit village qui s'appelle, je vous le donne en mille, Saint-Lange, voilà, pour une femme qui n'aime pas son bébé, bien joué, honoré. Et la marquise regarde sa fille Hélène, et elle pense, quand Hélène me parle, je lui voudrais une autre voix. Quand elle me regarde, je lui voudrais d'autres yeux. Elle est là pour m'attester tout ce qui devrait être et tout ce qui n'est pas. Elle m'est insupportable. Alors, inutile de préciser que écrire ce genre de choses fait de vous un paria, surtout en 1830. Balzac l'a payé très cher et heureusement que Twitter n'existait pas en 1830. Il se serait fait laminer et Christine Boutin, elle aurait inventé le hashtag balance ton Balzac. Voilà. Alors, il se trouve que Jessica et la marquise ont, cela dit, un autre point commun, c'est qu'elles ont honte. Elles ont honte de ce qu'elles ressentent, elles ne le vivent pas du tout paisiblement. La marquise est en proie à des souffrances qui resteront longtemps inconnues parce que le monde les condamne, écrit Balzac, vous voyez le visionnaire quand même. Et Jessica, elle, accuse et le médecin de famille qui l'aurait incité à tomber enceinte, on fait des enfants entre 20 et 25 ans, il y a un service de petite enfance qui est très bon à Martigues, etc. Et elle accuse aussi les vapeurs toxiques des usines environnantes qui auraient déréglé son affection. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se débrouille pour fabriquer un secret encore plus lourd que son absence d'amour, pour écraser cette honte par une honte encore plus grande. Et la marquise de Balzac, elle fait pareil. Comme si la seule façon pour ces femmes d'oublier cette faute était d'en créer une autre. Alors je vous laisse découvrir laquelle en vous donnant les références. Marie Tinama de Ségolène Vincent est parue à l'Observatoire et La femme de 30 ans de Balzac est en folio.
Merci Clara Dupont-Monod. Une réaction, merci. Ségolène
Non, c'est très juste. Et j'aime beaucoup Balzac. Et j'ai lu évidemment La femme de 30 ans et je n'avais pas fait le rapprochement parce que moi, mais sans prétention aucune, mais j'avais plutôt puisé mon inspiration dans Zola et dans La joie de vivre.
Ah oui, qui est méconnue de Zola, qui est un
oui,
des plus beaux.
Oui, qui est méconnue, mais du coup, non, ça, je suis plutôt très, très flattée et qu'on présente maritimement en même temps que La femme de 30 ans de Balzac. Merci.
Ségolène Vincent, notre compagnie, on va aborder ce dernier sujet, soit le dessert de l'émission. À Marseille, un requin bleu a perdu le cap, au point de se retrouver à tourner en rond dans le port de l'Estac, tel un poisson rouge dans son bocal. C'était il y a 2 semaines et il a été reconduit au large.
Dans les eaux chaudes, je t'entraînerai, et sans que tu le saches, avec amour, avec douceur.
Bébé requin, bébé loulou, bébé requin, bébé d'amour.
Attention derrière vous. France Gall et Les Dents de la Mer, un mixage signé de notre réalisatrice Anne-Sophie Ladonne. Sigolène Vincent, vous qui faites du surf.
Mal, hein. Oui, oui, mais j'en fais.
Vous en envoyez régulièrement des requins bleus. Il paraît que c'est assez commun en Méditerranée. Ça vous
oui, déjà... c'est commun. Les requins renards également, je crois. Non, non, en Méditerranée, j'ai jamais vu de requin, mais j'ai le cauchemar récurrent depuis que je suis enfant qu'un requin blanc me dévore en mer Méditerranée. Alors j'ai grandi en Afrique où il y a plein de requins.
Oui, à Djibouti.
Oui, oui, à Djibouti. Ouais. J'adore nager avec eux. Et en Méditerranée, j'ai toujours peur de ce requin blanc.
Mais attendez, à Djibouti, vous en avez croisé
des blancs? Non, non.
Ah,
d'autres,
non, non,
oui.
D'autres, oui, oui.
Oui. D'accord. Et il est vrai que toutes les semaines dans Google, je marque requin Méditerranée. Actualité. Bing.
C'est vrai.
Donc ce requin
comme
bleu,
surfeuse.
Je ne l'ai pas raté.
Ouais, ouais. Vous avez tellement raison, parce qu'aujourd'hui encore, il y a un surfeur qui a été tué par un requin à La Réunion.
Ouais.
Et donc, entre votre défense du
vide... Ça bien
vous rassurer. Non mais attendez, parce que, on va prendre les choses dans l'ordre. Le requin blanc, il n'y en a pas en Méditerranée.
Si, il y en a.
Si,
en Méditerranée.
Il y en a, bien sûr.
Ah mince. Oui, oui.
Ah oui, d'accord. Mais c'est pas qu'une rumeur.
Il n'est pas à Marseille.
Il n'est pas à Marseille.
OK. C'est la mafia, évidemment.
Voilà. Mais effectivement, c'est comme dans vous le dites dans votre roman, c'est une rumeur régulière qui s'approche ou pas.
Oui, c'est une rumeur régulière, mais en Corse, dans les filets, parfois à Saint-Florent ou même vers Bastia, ils en remontent dans les filets. Il y a des requins blancs en Méditerranée, oui.
Et entre.
Mais moi ça serait un plaisir de les rencontrer. Hein.
Oui,
j'aime le requin. Et pas celui-là-dedans.
Je comprends, oui. Justement, vous êtes dans la défense du vivant. C'est aussi dans le roman, d'ailleurs.
Oui, oui.
On lance rien sur le chat, ni sur le grillon, ni
sur l'enfant.
Mais sur l'enfant, ça, oui, on ne dit rien. Mais entre votre passion du surf et votre passion pour le vivant, le dilemme que connaissent, par exemple, les Réunionnais, Comment vous feriez, parce qu'on cherche des moyens, des filets électriques qui les tuent, etc. Vous avez déjà fait un sujet là-dessus. Ouais,
on continue à surfer en sachant, ok, on prend le risque, en acceptant le risque.
Il y a
des horaires, vaut mieux pas y aller le matin ni le soir aux heures de chasse, pas quand la mer est trouble.
Et c'est pas des requins blancs à la
Non, c'est des tigres ou des bulldogs même.
On connaît les principes de précaution. Sigolène Vincent, vous avez aussi fait des cours de comédie, un peu de comédie d'ailleurs. Alors on va jouer avec vous.
Elle est venue pour le sketch.
Oui, c'est ça.
Alors, on en a parlé tout à l'heure, Aurélien Enthoven, le fils de Carla Bruni, et Raphaël Enthoven s'est engagé à l'UPR, le parti de François Asselineau. Carla Bruni veut comprendre d'où vient cet engagement à l'UPR. Ils vont donc tous les trois chez la psy. Sigolène, vous êtes la psy. Charline est Carla Bruni. Guillaume est Aurélien Enthoven. Et Thomas est Raphaël Enthoven.
Bien sûr.
Bonjour.
Ah, Madame Bruni, qu'est-ce qui vous amène?
Ah là, je suis tellement inquiète à propos de mon enfant!
Non, alors Charline, c'est pas Céline Dion, c'est Carla Bruni que je dois.
Ah oui, c'est vrai. Ah, je suis tellement inquiète, c'est à propos de mon petit.
Monsieur Sarkozy?
Mais non, l'autre petit. C'est mon vrai petit, c'est Aurélien.
Votre fils? Mais il est plutôt équilibré, il fait ses vidéos sur YouTube.
Alors le mieux, c'est que vous constatiez par vous-même. Aurélien!
Brexit! Prouve que tu existes!
Aurélien, tu m'entends?
Eh ben non, il t'entend pas, tu fais Carla Bruni, personne ne t'entend.
Ouais, c'est vrai. Aurélien, tu m'entends?
La dictature européenne a été créée par la CIA.
Qu'est-ce qui lui arrive?
Mon Dieu, c'est terrible. C'est vraiment... Il s'est engagé à l'UPR.
L'UPR, c'est quoi?
Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a personne qui connaît ça.
C'est pas vrai, d'abord, c'est le grand parti du grand François Asselineau, c'est un parti souverainiste.
Et conspirationniste.
Ah oui, quand même. Bon, je lui file un cachet, il va faire une petite sieste.
Bonjour! Excusez-moi, je suis terriblement en retard.
Quatre consonnes, trois voyelles, c'est le retour de Raphaël. Mais qu'est-ce que tu fais là?
Je suis venu pour mon fils.
Notre fils!
Oui, enfin, comme tu veux. Mon fils, ton fils, notre fils, en amour, la possession ne se résume pas à la propriété.
Oh là là, qu'est-ce que t'es pénible avec tes citations.
Bon, dites-moi, qui a élevé Aurélien?
C'est toi, non?
Oui, enfin bon, je l'ai vu deux, trois fois.
Ok, on va dire que vous l'avez enlevé ensemble. Vous l'avez enlevé ensemble.
Joli lapsus.
Ensuite, dites-moi, vous êtes de gauche ou de droite?
Ah bah moi, je suis de gauche.
Oui, enfin, vous avez épousé Sarkozy quand même.
Oui, c'est vrai, est-ce que je peux être nouille?
Ok, et vous, Raphaël?
Ah ben, vous savez, la gauche, la droite, ce sont des concepts de substitution et d'appropriation idéologique qui renvoient à des années d'aliénation politico-culturelle.
Ouais, et donc vous êtes de gauche ou de droite?
Enfin, je viens de vous répondre.
Bon, j'ai compris. Il fait un syndrome Asselineau-délirant dû à l'absence de repères, ça devrait passer.
Bon ben, merci docteur, on se revoit la semaine prochaine.
Oui, attendez, qui ramène Aurélien là?
Ah ben, je sais pas, c'est toi, non?
Merci.
Merci beaucoup, Sigolène Vincent. Merci. Je rappelle, votre roman s'appelle Maritima aux éditions de l'Observatoire et on vous lit également dans Charlie et qui viva Charlie Hebdo. Allez les amis, merci beaucoup à tous. Et ben, on va laisser le mot de la fin à notre hôte, Sigolène Vincent.
Alors le muge, il est impacifique parce qu'il ne mange pas ses congénères. Et,
il est très mignon ce mulet.
Mais il est très mignon. Ouais. Et là, on a fait de la poutargue.
C'est une belle histoire au début, puis avant que les humains arrivent dans le...